Radio Foot International. CAN Total. Égypte 2019. Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI Radio France Internationale. Alors aujourd'hui, eh bien, nous allons évoquer cet avant-dernier match de la CAN 2019. Et oui, l'aventure est prête de s'achever au Caire. Ce soir, la petite finale, comme on dit, opposera Tunisie et Nigeria. Les deux équipes éliminées en demi-finale. Un besoin de surmotivation pour des joueurs très déçus, mais une marche sur le podium qui peut les faire rêver un peu, ces joueurs. Surtout, une affaire de plume entre Rapace et finalement une affaire d'honneur entre Aigle de Carthage et Super Eagles. Un match à suivre sur RFI, bien sûr, dès 19h, temps universel. Pour les heureux qualifiés, J-2, et du côté des Lions de la Teranga comme des Fennecs, l'heure eh bien, de se rappeler dans Radio Foot International les grands souvenirs entre ces deux sélections qui se sont souvent rencontrées, plutôt au profit de l'Algérie, statistiquement parlant, mais qui ont aussi brillé sur la scène internationale. Et on compte sur vous deux, messieurs, qu'on a opposés aujourd'hui dans ce studio pour en parler. Habib Baye, bonjour.
On est entre amis,
Et Nabil Djellit, bonjour.
Vous avez raison de dire que vendredi, ça sera un petit peu plus, un petit peu plus tendu.
C'est pour ça qu'on vous a invité mercredi. Il y a Freddy Koula aussi là, qui est là pour faire un peu la balance. Bon, bonjour. Bonjour Freddy Koula, ami gabonais théoriquement neutre, hein, n'est-ce pas?
Ensuite,
je vous ai trouvé aux Gabonais absents sur cette compétition, mon cher.
C'est pas mal, mais j'ai un penchant pour les amis algériens et surtout un cœur qui est sénégalais pour mon papa.
Ouais. On évoquera aussi cette valse des sélectionneurs de la CAN qui a commencé à peine éliminé de la compétition de Sabre, Aguirre, Put et Amunike. Hier, enfin, Clarence Seedorf, tous ces sélectionneurs ont été remerciés ou virés, comme on dit aussi. Le sélectionneur des Lions Indomptables, donc, n'aura pas passé un an à la tête des Lions Indomptables. Et la sortie en huitième de finale a été jugée prématurée par les autorités. Nous y viendrons. Avant de commencer Radio Foot International, notre hommage de notre équipe, notre révérence aussi à un grand monsieur d'Afrique, un musicien qui nous a accompagnés jusqu'à hier et qui nous accompagnera longtemps. Scattering of Africa, les déracinés de l'Afrique. Johnny Clegg était un peu notre idole ici et l'idole sans doute de beaucoup de gens sur le continent africain. Radio Foot, c'est parti.
Voici un aigle royal.
Les Tunisiens sont rentrés au vestiaire, tous les Sénégalais sont encore là. Et les Tunisiens n'ont plus que leurs yeux pour pleurer.
De petits cris rapprochés signalent une nouvelle menace.
Les Nigérians sont comme en prière, réunis tout près du rond central, essayant de récupérer, mais complètement sonnés, KO, groggy.
Complètement assommé.
Assommés, les Nigérians.
Un combat de rapaces, un duo de vaincus à plumes ce soir en Égypte entre la Tunisie et le Nigeria. Les Aigles de Carthage et les Super Eagles disputeront donc le match de la troisième place. Ce match, bien qu'aucun demi-finaliste n'aimerait disputer, mais qu'il faut disputer quand même et gagner pour repartir la tête haute. C'est ce qu'a dit Gernot Rohr, le sélectionneur des Super Eagles du Nigeria, donc à ses joueurs et au micro d'Antoine Grenier.
Il est mieux de rentrer avec une victoire au Nigeria, même si c'est une petite finale, qu'avec une défaite en finale. Et c'est un match pour le plaisir et pour aussi le spectacle, j'espère, parce que nos trois derniers matchs étaient des matchs de haut niveau, de bonne qualité, pour les joueurs et aussi pour les spectateurs. Et j'espère que ce match sera encore dans cette série de matchs de haut niveau, avec aucune expulsion, avec aucune blessure grave. et que ça soit une belle fin pour mon équipe.
Remotiver ses joueurs sur le remotiver ses joueurs donc pour un podium, c'est le rôle du sélectionneur, a insisté Alain Giresse hier, toujours au micro d'Antoine Grenier.
C'est toujours un match délicat, évidemment, sur le plan physique, bien sûr, après 120 minutes de match, mais aussi sur le plan mental, et c'est là que c'est le plus compliqué. C'est un match où deux équipes qui vont s'affronter sont deux équipes qui ont essuyé une déception. Donc la remobilisation n'est pas la même, il n'y a pas ce côté un petit peu dynamisant, euphorique d'une victoire en demi-finale pour jouer la grande finale. Voilà, c'est la problématique de ce match-là assez particulier sur lequel il faut beaucoup insister pour remobiliser les joueurs qui peuvent avoir une forme de déception qui crée un peu de décompression.
Abibay, je me tourne vers le joueur. Est-ce que c'est facile ou difficile de jouer cette petite finale, comme on dit, on l'appelle aussi la consolante, quand on a rêvé de disputer évidemment la finale?
Pour moi, il y a deux aspects. Ce qui est difficile, c'est de se remobiliser après une telle déception, parce que la déception de ne pas atteindre une finale de Coupe d'Afrique des Nations ou d'autres compétitions est énorme au sein d'un effectif et surtout pour un joueur individuellement. Après, la consolante, pour moi, je l'ai toujours dit ici, après c'est mon avis à moi, ça n'a pas sa place en fait. C'est-à-dire que être troisième, est-ce qu'on peut considérer que c'est un trophée? Moi, je ne pense pas. Aujourd'hui, on dit souvent le premier est le champion, le deuxième est un con, c'est un petit peu ça. Mais malheureusement, je peux vous le dire, puisque j'ai perdu 6 finales dans ma carrière et aujourd'hui sincèrement je me vois pas comme un champion, je me vois comme quelqu'un qui a perdu une finale et j'aimerais être à la place de ceux qui l'ont gagné. Donc
vous avez souvent été deuxième.
J'ai souvent été deuxième, donc j'ai souvent été un con.
Comme en 2002.
Mais parfois dans l'histoire on retient les deuxièmes.
Mais je dis pas le contraire. Là on parle des émotions, on parle des Pays-Bas de Cruyff qui ont pas été champions du monde et on s'en rappellera encore dans 50 ans. J'ai pas de problème avec ça. Je remets pas ça en question. Ça c'est un avis personnel. Je pense que personnellement il est très difficile de se remobiliser, mais comme on aime le foot, une fois qu'on est sur le terrain pour jouer cette troisième place, ils vont la jouer à fond. Mais cette déception, et ça c'est le rôle des entraîneurs et des managers et des sélectionneurs, bien sûr, de pouvoir remobiliser des joueurs qui sont dans un premier temps démobilisés, surtout déçus, il faut essayer de les ramener sur un intérêt qui est important, c'est de rentrer au pays avec une victoire et le fait de dire on a fini troisième. Mais je pense que globalement c'est un échec lorsque vous n'atteignez pas la finale et surtout quand vous ne gagnez pas une finale. Moi, en tout cas, les 6 finales perdues, je les vois comme des échecs.
Ce qui est difficile, c'est surtout qu'on a deux équipes qui ont, entre guillemets, flirté avec le Saint Graal, c'est-à-dire la finale.
Mais à chaque fois, ça a été assez cruel.
C'est assez cruel, c'est que c'est difficile de se remobiliser, mais après tout, quand on peut relativiser en regardant le parcours de chacune de ces équipes-là, et surtout les forces qu'il y avait avant la compétition, quand on regarde la Tunisie, surtout après les deux premiers matchs, aucun Tunisien n'espérait atteindre au moins les demi-finales parce qu'ils étaient presque tous défaitistes. Pareil pour le Nigeria, ils y croyaient pas trop, parce qu'évidemment, vous vous souvenez que le Nigeria a raté les deux dernières éditions de la CAN. Guyana Traoré a fait, pour certains Nigériens, j'en ai discuté avec eux, un gros travail. Ce qui est sûr, c'est que leur CAN, ils ont réussi à demi-mot, mais surtout que ce qui est sûr, c'est que c'est le scénario qui restera gravé dans la mémoire et surtout le sentiment de l'injustice que ressentent les Tunisiens qui, en gagnant d'ailleurs, ils ont boycotté le prochain congrès de la Confédération africaine de football. Il y a eu l'injustice, entre guillemets, avec la finale de la Ligue des Champions. Ça fait beaucoup de choses pour les Tunisiens, mais la troisième place est pourrait faire un petit soulagement, mais ça compte pas du tout.
Quand on connaît aujourd'hui les difficultés du calendrier, la longueur de la saison, c'est une saison qui est absolument éreintante. Un match supplémentaire pour des joueurs qui n'ont pas eu de vacances, alors même si effectivement ils doivent honorer leur sélection nationale, c'est juste un match qui a une valeur symbolique. Ça n'a pas du tout le même impact que dans des sports individuels ou aux Jeux Olympiques ou dans des choses comme ça où il y a quelque chose de palpable avec une médaille de bronze.
Mais ça dépend des pays, parce que le Mali, je me souviens, leur première, troisième place, ils avaient presque fêté comme s'ils avaient gagné la CAN.
Oui, en 2002.
Voilà. Oui, exactement.
Alors effectivement, dans ce cas-là, mais après les joueurs, bon, alors ce qui peut être bien, c'est de récompenser les remplaçants éventuellement et d'impliquer tout le groupe. Mais entre nous, franchement, je suis sûr que si vous allez demander en catimini aux joueurs ce qu'ils en pensent, s'ils avaient pu déjà être dans l'avion et rentrer chacun de son côté, ils l'auraient déjà fait parce que ça ne les consolera jamais de cette déception de la demi-finale.
Voilà. Nous sommes en ligne avec Eric Mamrut qui est l'un encore de nos envoyés spéciaux sur place. Bonjour Eric.
Bonjour Annie, bonjour messieurs.
Eric, vous en avez déjà commenté des matchs pour la troisième place. Vous êtes motivé?
C'est une bonne question celle-là, je ne m'y attendais pas. c'est vrai que le tournoi est un peu long, donc du coup on commence à tirer la langue. Donc c'est vrai que ce n'est pas le genre de match qui nous enthousiasme à 150%, comme les joueurs, sans doute. Mais après, une fois qu'on est lancé, qu'on est dedans, et surtout s'il y a des buts, pourquoi pas. Souvent, il y a eu des matchs très spectaculaires avec beaucoup de buts. Ces deux, trois dernières éditions, ça a moins été le cas. Mais ça peut donner des matchs très spectaculaires, beaucoup moins fermés, évidemment. Tout le monde donne ce qui lui reste dans le ventre, dans les chaussettes. Donc, il peut y avoir aussi des erreurs, parce qu'on est fatigué, moins attentif. Et si on a du spectacle, des buts, bah, tout le monde est content. Et puis, quand même, pour avoir effectivement commenté pas mal de petites finales, on voit quand même à la fin du match, le vainqueur, bah, on voit tous les joueurs quand même très, très, très contents, quoi. C'est sûr que finir la CAN, au moins sur une bonne note, une note positive, plutôt que enchaîner deux défaites d'affilée qui filent le bourdon, c'est quand même mieux, quoi, pour eux que ça, quoi.
Freddy.
Mais pour corroborer ce qu'il dit, c'est que les Nigérians, ils sont presque habitués à ne pas perdre les petites finales. Ils ont joué, c'est vrai, 15 demi-finales dans leur histoire, mais ils ont joué surtout 7 petites finales qu'ils ont toutes gagnées. Donc ça signifie que pour eux, peut-être perdre cette finale-là.
Ouais, symboliquement, ce qu'on retiendra du tournoi du Nigeria, c'est le coup franc de Mahrez qui les élimine, quoi. Je veux dire, non, mais c'est terrible.
Ouais, ce qu'on retiendra, mais ça, c'est du point de vue extérieur. Du point de vue extérieur, peut-être, mais eux. Le public est content.
En tout cas, Eric, parlons maintenant du match. Vous avez donc vu, vous qui êtes sur place, et vous sentez l'ambiance qu'il y a pour ce match. Alors, j'imagine qu'il n'y aura pas encore beaucoup de monde dans les gradins. Mais en tout cas, y a-t-il, selon vous, un favori ou peut-être une équipe qui s'est un peu mieux remise dans la tête de son élimination ? On parlait tout à l'heure de ces éliminations un peu cruelles en demi-finale.
Difficile à dire comme ça. Après, comme le disait Freddy, le Nigeria a vraiment l'habitude de ces petites finales. Ils sont à 100% de réussite, 6 sur 6. Donc c'est plus peut-être dans la culture du Nigeria de se battre jusqu'au bout et d'aller chercher une petite consolation à l'arrivée. Les Tunisiens, eux, effectivement, c'était cruel leur élimination en demi. Ce pénalty non sifflé dans la prolongation, peut-être un sentiment d'injustice. Eux nous ont dit, en tout cas hier en conférence de presse, qu'ils avaient digéré. Bon, après, on le verra sur le terrain, évidemment, parce que bon, ils vont pas se présenter avant le match en disant on est détruit, on est fatigué, on en a marre, on n'a pas envie de jouer ce match, nous on a envie de rentrer à la maison. Donc, c'est le discours du football, ça de toute manière un petit peu toujours positif, c'est la langue de bois habituelle, mais. Le Nigeria, de toute manière, bon, a cette culture plus de la gagne, à mon avis, a plus déjà de joueurs, de réservoirs pour pouvoir remplacer les éventuels blessés. Là, il y a Msakni et Moïse Assène côté tunisien qui ne seront pas là. Il y a Alain Giresse, il ne dispose pas de 36 000 solutions sur son banc des remplaçants. Donc, j'ai déjà intrinsèquement, je pense que le 11 nigérien aligné sera supérieur au 11 tunisien.
Habib Bey, un favori pour vous ?
Moi, c'est plus un favori de cœur parce que j'ai rien contre le Nigeria. C'est comme la Tunisie a été sortie par le Sénégal. J'ai envie que. Et puis en plus, dans des conditions qui. Non, c'est pas compensation du tout, mais c'est une défaite qui est aussi cruelle pour eux. Ils ont un pénalty. S'ils le mettent le premier, ça peut être compliqué pour le Sénégal. Je suis désolé, j'ai vu la main d'Aïssa Mandi qui a été sifflée. Elle peut être sifflée aussi de celle d'Idrissa Gueye. Moi qui ai aujourd'hui Sénégalais, si je dois être objectif. Sincèrement, le ralenti, je peux me dire, bah oui, il y a pénalty pour les Tunisiens. En tout cas, j'ai vu d'autres pénaltys qui ont été sifflés, qui se ressemblent. On veut pas voir ces mains-là sifflées aujourd'hui dans le football d'aujourd'hui. Mais comme il y en a eu d'autres de sifflées, si elle avait été sifflée, ça aurait pas été un scandale. Donc je me dis, les Tunisiens ont fait un match en plus de qualité où ils ont eu pas mal d'occasions. Voilà, c'est plus un favori de cœur. Après, c'est vrai que sur le papier, le Nigeria est sûrement supérieur à cette équipe de Tunisie.
Moi, je suis pas persuadé que le Nigeria soit supérieur par rapport à la Tunisie. On n'a pas vu un grand Nigeria sur ce tournoi.
Ouais, c'est ce qu'on a.
Et je pense qu'individuellement,
dans certaines émissions,
je pense qu'individuellement, ils ont perdu en termes de talent, même s'il y a de la qualité, Chukwueze, Ahmed Moussa, mais on est quand même.
Oui, il y a plus les grands joueurs du Nigeria.
Il y a pas forcément star. Je dis pas qu'une star vous garantit forcément une victoire, mais la Tunisie, vous me dites qu'Emsakni n'est pas là, Stiti va le remplacer, vous me dites que Moïse Assène n'est pas là, Ben Chrifia va le remplacer. Alors je ne connais pas le reste de la composante tunisienne, mais à mon avis, c'est deux équipes qui vont pouvoir se regarder les yeux dans les yeux. Hein.
Ce sont deux équipes qui sont montées en puissance dans la compétition, même si Nabil dit que le Nigeria, je trouvais le Nigeria plutôt bon avec ses forces, parce que c'est pas le Nigeria qui joue très bien au football, mais ils sont montés en puissance, ils ont imposé un petit rythme physique sur certains matchs. Si, ils n'ont pas eu d'occasion, mais ça s'en est fallu de peu, ils sont quand même allés jusqu'à la dernière seconde avant de encaisser ce but de génie. Mais ce qui est sûr, c'est que ce match-là, c'est aussi un match pour Alain Giresse qui a été énormément critiqué après ses premiers matchs notamment. Ce match-là, s'il l'opère, ce qui est sûr, c'est que en plus tout le courroux qu'il y a autour de la Confédération africaine de football et des arbitrages qui sont mis en cause, c'est surtout qu'Alain Giresse aussi joue un peu sa place. Faudra voir s'il continue ou pas, s'il gagne ce match ou pas.
Éric Mamrud, justement, on a remarqué aussi, j'imagine que vous encore plus, ces deux sélectionneurs qui se retrouvent face à face, c'est pas la première fois dans une CAN, et ces deux hommes qui se connaissent très bien, on peut dire.
Bah, ils ont joué à Bordeaux ensemble, évidemment, dans les années 80, longtemps. Après, Alain Giresse est parti à Marseille et ça a donné lieu à un duel entre les deux hommes, Gernot Rohr à Bordeaux et Alain Giresse à Marseille. Et ça ne s'est pas très, très bien passé. Alain Giresse en rigole encore. Il dit je dois faire attention à mes tibias quand je le croise. Mais bon, apparemment, ce n'est pas les meilleurs amis du monde, mais quand même, il y a beaucoup de respect entre eux. Et ce sont deux gentlemen, donc évidemment c'est assez drôle de voir effectivement deux joueurs issus du même club devenus sélectionneurs en Afrique se retrouver face à face dans une CAN pour un match pour la troisième place. Et effectivement c'est pas très fréquent, même si effectivement je crois que Giresse et Rohr s'étaient affrontés lors de la CAN 2012, hein.
Gabon-Malou,
voilà.
Ouais.
Alors que Giresse était sélectionneur du Mali et Gernot Rohr du Gabon. Pour rappeler juste la différence entre les deux, c'est qu'Alain Giresse a remporté lors de cette édition la médaille de bronze, alors que Gernot Rohr, lui, pour l'instant, a un palmarès africain vierge de ce côté-là.
Oui. Habib, ces deux sélectionneurs qui ont joué fut un temps ensemble, pour vous, y a-t-il une grande différence entre deux?
Je suis pas sûr que ce soit le même football. Le football tunisien et le football nigérien n'est pas basé sur la même chose. Je pense que le football tunisien est un football qu'on a pu voir monter en puissance avec un petit peu plus de qualité technique. On a vu beaucoup de puissance chez les Nigérians. Donc je suis pas sûr que ça soit les mêmes principes, la même philosophie. Après, je suis pas sûr qu'un duel qui ait existé dans les années 80 ait un impact aujourd'hui dans le duel entre la Tunisie et le Nigeria. Ce qui va être intéressant, c'est l'opposition de style entre ces deux équipes, ce qu'on a pu voir d'ailleurs entre l'Algérie et le Nigeria, parce que c'est vrai que le Nigeria ne fait pas un grand match contre l'Algérie, mais c'est surtout les Algériens qui, pour moi, depuis le début du tournoi, sont impressionnants dans leur capacité physique à résister à ces équipes-là, ce qu'on n'avait pas vu de l'Algérie, et c'est ce qu'a développé justement Djamel Belmadi. Mais pour revenir à l'opposition, non, je suis pas sûr que ça ait un lien sur le match de ce soir. Ce qui est sûr, c'est que forcément, ce qui peut jouer dans la tête des deux sélectionneurs, c'est d'avoir ce sursaut d'orgueil de dire on a eu cette rivalité il y a 30 ans, je vais faire en sorte de gagner mon match, parce que c'est l'ambition de tous les sélectionneurs. Mais peut-être qu'il peut y avoir ce piment un petit peu supplémentaire si demain il y a des petites frictions entre les deux bancs. Peut-être que ça peut revenir, mais voilà, c'est deux oppositions de style.
On a parlé aussi récemment, parce que j'en discutais avec des gens, de quand même une réconciliation depuis un petit moment entre les deux hommes.
Non, mais là, ils sont face à face et ils ont joué très ensemble, c'est ça qui est amusant. Je ne reviens pas du tout à la polémique.
On en parlera, c'est comme Aliou Cissé et Djamel Belmadi.
Oui,
ils se sont croisés, il y a des belles histoires, et c'est bien, c'est-à-dire le monde est petit, et c'est l'Afrique qui le réunit finalement.
Mais derrière, ce n'étaient pas les deux mêmes footballeurs non plus. On avait un Alain Giresse qui était à l'image de la Tunisie, très technique, et un Gernot Rohr qui était plus dans l'impact.
Après, Gernot Rohr, il a quand même, alors je dis pas un avantage, mais il connaît le football tunisien, parce que lui, il a entraîné en club, notamment du côté de la Tunisie et du côté de l'Étoile du Sahel. Il a notamment révélé à Eman Abdennour, qui est parti ensuite en Europe. Alors oui, je suis d'accord, ça va être plutôt un duel de style, avec une équipe tunisienne qui est toujours bien en place tactiquement, qui est pas naïve, mais elle ne l'est jamais, la Tunisie, depuis 20 ans. C'est une équipe toujours bien organisée, qui a peut-être moins de talent que l'Algérie ou le Maroc, mais qui optimise beaucoup mieux.
Ce qui est sûr, Annie, c'est que ces deux hommes, j'ai de la chance de les avoir rencontrés, qu'ils étaient sélectionneurs du Gabon. J'ai discuté avec les deux et j'étais à la conférence de presse après le fameux match qui nous a fait pleurer en 2012 entre Gabon-Mali. C'était un duel tactiquement et surtout avec un peu d'intelligence gagnée par Alain Giresse, qui à cette époque-là avait corrigé les erreurs de Gernot Rohr. Ça avait laissé beaucoup de traces, notamment dans la carrière de Rohr, qui en plus, ensuite, quelques temps après, était au chômage. Il était parti au Niger, au Niger ensuite. Ça avait causé d'ailleurs son licenciement, parce qu'on avait dit à cette époque-là que Giresse lui avait donné une petite leçon tactique, parce que souvenez-vous, il avait sorti Daniel Cousin. Mais ce sont deux personnes qui se respectent énormément, pour avoir discuté avec Giresse de Rohr.
Franchement, j'ai pas... moi je les ai trouvés, et d'ailleurs au-delà de ça, je trouvais que cette CAN, elle est hyper fair play. On dans les conférences de presse, il n'y a pas eu de phrases assassines.
Au début, Belmadi a voulu chambrer un tout petit peu, je pense, à Lucis, mais après, ça s'est vite.
C'était très
c'est amusant.
Franchement, ouais, c'était même drôle. Mané sur le Sénégal-Algérie, il y a un pénalty, il n'en parle même pas. Guernot-Ror, après sa sortie face aux Algériens, il dit que les Algériens. Mais franchement, c'est quand même à dire et à saluer, et je trouve qu'on ne le dit pas assez.
Éric Mamrut, on vous retrouve donc d'ici peu avec Antoine Grenier, c'est ça, pour la retransmission de ce match.
Et Joseph-Antoine Bell qui sera là avec nous.
Farid Achache aussi, j'imagine.
Oui, bon, on sera nombreux, évidemment. Juste pour préciser juste un truc par rapport aux deux effectifs, juste pour rappeler que côté tunisien, s'il y avait un grand attaquant, la Tunisie serait en finale, parce que Nissi a tout raté en demi, alors que côté nigérian, il y a un Odion Ighalo qui a déjà marqué 4 buts et qui aimerait bien décrocher le titre de meilleur buteur en prenant de l'avance sur Mahrez et Ounas qui vont jouer la finale et vendredi. Mané. Donc, je crois, à mon avis, ça peut être une grosse différence.
Et Mané aussi, il faut pas l'oublier. Il a 3 Mané, buts, Sadio voilà. Mané.
Exactement.
C'est un Algérien qui le dit. Hein.
Et Annie, peut-être c'est pour juste compléter sur Ighalo, juste préciser que le dernier Nigérian à avoir marqué 4 buts dans une CAN, c'était Amunike, c'était en 2013. Bientôt, il y avait aussi Mbarak Wakaso. À cette époque-là, le Nigeria avait eu une médaille. Mm-hmm. C'était la bonne.
Merci beaucoup. Donc, Éric Mamrut, rendez-vous avec vous à 18h47 en temps universel, hein, si je ne me trompe pas. C'est bien ça?
Ça marche.
Ça marche. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Éric. On continue à parler de la CAN J-2. L'heure de vérité approche donc. Une affiche si alléchante, celle de la CAN, si excitante aussi, eh bien qu'en France, le diffuseur beIN Sport, qui est une chaîne payante, eh bien a cédé les droits au groupe TF1. Et c'est donc la chaîne TMC qui passera le match en clair, comme on dit, c'est-à-dire accessible à tous, avec au commentaire Frédéric Callange, confrère de TF1, et Brahim Thiam pour ce qui est des commentaires.
Ancien international malien.
Mm-hmm. Monsieur est très gentil, Brahim. Félicitations pour sa carte d'ailleurs.
Oui, exactement, puisqu'il est très très bon en commentaire.
Voilà, donc ce seront les deux personnages qui le feront vivre en France. C'est une bonne chose, messieurs, que ça passe en clair.
Ça change beaucoup de choses.
Moi, je trouve que c'est bien dans le conflit que tout le monde présente entre les chaînes, justement, des droits aujourd'hui qui sont des droits spéculatifs, où on a l'impression que les chaînes sont en guerre, justement, pour acquérir des droits. C'est une vérité. Ils sont pas en guerre, mais il y a une vraie concurrence. Là, le fait de les céder et de donner accès à ce match à un nombre de gens beaucoup plus important, quand on connaît la communauté algérienne en France, quand on connaît la communauté sénégalaise et la communauté
et la sensibilité africaine,
effectivement. La sensibilité africaine, parce que là, on parle de continent, on parle plus d'Algérie, de Tunisie ou du Sénégal. On parle du continent africain, qui, je trouve, il faut le dire, le fait que cette CAN ait été en Égypte et cet été a donné un petit peu plus de vitrine à cette compétition. Donc c'est bien. Je trouve que c'est une bonne chose de la part de beIN Sport. C'est une bonne chose que ça soit sur TMC. Et ça donnera un accès à ce match à beaucoup plus de gens.
Moi, j'étais heureux de suivre en grande partie sur RFI, notamment dans ma voiture. Parce qu'effectivement, c'était parfois difficile de regarder les matchs. C'est un juste retour des choses pour le continent africain. Il est concernant dans le sens...
Est-ce que ça donne plus d'aura, finalement, le fait parce que la CAN, on avait parfois l'impression que c'était un peu confidentiel. On en parle beaucoup sur RFI, mais on a l'impression que les autres médias l'ignorent.
Il y avait plein de matchs en même temps. Le problème qu'il y avait avec cette CAN avant mois de janvier, c'est que vous pouviez avoir, par exemple...
Ça, c'est chez vos chaque
imaginez-vous, vous avez un Liverpool-Everton. Les gens, ils vont pas regarder Madagascar-Burundi si vous avez un Liverpool-Everton. Là, vous n'avez pas d'autres matchs. Il n'y a rien en ce moment. Donc, les gens regardent la CAN parce qu'il n'y a rien d'autre. Mais ils regardent la CAN aussi parce qu'à un moment donné, il faut en parler.
Ouais, mais...
L'affiche de cette finale est une affiche de grande qualité.
Mais par exemple, moi, je suis pas totalement d'accord dans le sens où je pense qu'il faut aussi donner accès aux gens des gens qui sont concernés par le football africain. Par exemple, je prends mon cas, moi, la Copa América, j'adore regarder ça. J'ai pas d'origine sud-américaine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi un autre football. C'est aussi des talents. C'est des talents qu'on connaît, qui sont concernants, puisque c'est des joueurs de Ligue 1, des joueurs qui évoluent en Première Ligue. Donc, je pense que c'est aussi le rôle, quelque part, sans parler voilà de démocratisation de la CAN, mais c'est aussi le rôle d'ouvrir cette compétition davantage. Sadio Mané, il a raison quand je l'entends dire. Il y a un moment, faut respecter la CAN comme on respecte la Copa América ou comme on respecte l'Euro. Alors ici, à RFI, il n'y a pas de souci. On la respecte. Le diffuseur, il la respecte, vu qu'il paye les droits. Mais moi, à titre personnel, je trouve qu'elle est quand même globalement sous-traitée.
Freddy.
Moi qui étudie ces questions-là, d'ailleurs, on en parlait il n'y a pas longtemps sur la territorialité des droits, la territorialité des droits et la distribution de ces droits, qu'il y ait Canal+ en Afrique ou beIN Sport en France. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une grande visibilité qui s'agrandit autour de cette Coupe d'Afrique des Nations, qui évidemment va atteindre des summums qui n'avaient pas atteint ces dernières années. J'en parlais en rigolant avec un ami que ceux qui ont fait la meilleure publicité jusque-là, même si elle est négative, parce qu'on dit communication égale à communication, ce sont les Algériens et peut-être les Sénégalais qui en parlaient et surtout qui ont fait les manifestations en France, évidemment, qui a été relayée par les médias. C'était la meilleure communication possible pour la CAN, pour qu'on parle de la CAN entre guillemets.
Ah non, la meilleure communication possible de la CAN, c'est le coup franc à la dernière minute. C'est Sadio Mané qui fait des différences.
Moi, je veux dire simplement que si TMC, si TF1 et TMC reprennent avec un audimat beaucoup plus grand et une visibilité beaucoup plus grande, ça donne un effet corollaire qui grandit évidemment l'image de cette CAN
par rapport aux acteurs du jeu. Ouais, c'est ce que disait Nabil, c'est qu'aujourd'hui la personne qui aime Sadio Mané, qui aime Liverpool, va regarder le Sénégal parce qu'il y a Sadio Mané. La personne qui
regarde, je pense que c'est l'affiche aussi.
Il y a Riyad Mahrez.
Sauf que si c'est conditionné par le paiement d'un abonnement et surtout ou peut-être du hacking,
c'est pour ça que ça fait que c'est un peu plus restreint. Très bien que TMC puisse retransmettre cette finale
et que ça donne effectivement une
l'engouement populaire. Il a toujours existé en Afrique, je veux dire.
Ah oui, en Afrique, oui, bien sûr.
Les Sénégalais s'emballent pour leur équipe.
Sauf que pour la CAN, il faut s'ouvrir à d'autres pays et les diffuseurs, des grands diffuseurs.
De toute façon, c'était l'idée de la Confédération africaine et dans ce style-là, elle aura gagné. En tout cas. Aujourd'hui, vous l'aurez donc noté, aujourd'hui, mercredi à J-2, on a Habib Bey et Nabil Djellit dans ce studio. Et on connaît vos sensibilités, même si vous êtes deux analystes professionnels. Et j'aurais aimé que chacun, alors je sais pas, je vais vous donner une minute ou 40 secondes, vous me disiez pourquoi l'équipe de votre cœur va gagner.
Instant
qui commence.
Instant Nabil, Instant Bey.
Pourquoi mon pays de cœur et mon pays d'origine va gagner? Parce que depuis le début, je vous dis qu'on sera au rendez-vous de la finale. C'était pas quelque chose d'illogique. Je crois qu'on a une équipe cette année qui pouvait prétendre à gagner cette compétition. Il reste une étape. Ensuite, je crois qu'on a montré beaucoup de caractère. On se rappelle de ce match face à l'Algérie où j'avais justement dit que j'étais inquiet pour ce Sénégal par rapport à l'aspect mental. Derrière, ça a très vite été rectifié par Aliou Cissé qui a fait des choix. Cette équipe s'est aussi révélée dans la difficulté parce qu'elle a éprouvé énormément de difficultés. Il y a du talent, mais en face, il y a une équipe d'Algérie qui a également fait un énorme tournoi. Donc, bien sûr que je souhaite que le Sénégal gagne. Maintenant, il faut être dans la réalité des choses et se dire que c'est sûrement la plus grosse des étapes, la plus dure des étapes qu'on aura à jouer vendredi. J'ai eu la chance de jouer une finale, je l'ai perdu et c'était aussi le plus gros des morceaux qu'on avait à jouer ce jour-là contre le Cameroun. On l'a perdu au pénalty et je sais à quel point une finale se joue à très peu de choses. Donc ça sera pareil pour le Sénégal. Maintenant, je pense que
ce peu de choses, cette fois le Sénégal là,
Aliou Cissé, ce groupe, ce pays a payé pour apprendre. Je pense à 2017 lorsqu'on se fait sortir par le Cameroun en pénalty. Je pense à la Coupe du Monde où on gagne notre premier match et on ne va pas en huitième de finale. Toute cette expérience négative a permis à Aliou Cissé de rectifier certaines choses et j'espère que sur ce match-là on sera capable de faire la différence parce que mentalement il faudra être vraiment très 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 fort face à cette équipe d'Algérie qui moi m'a impressionné, qui est pour moi la meilleure équipe du tournoi pour l'instant.
Nabil Djellit.
Bon alors moi déjà si ça devait mal tourner évidemment je serais triste pour l'Algérie, mais je serais pas triste de perdre contre le Sénégal parce que je vois ça d'abord comme une fête du football. Une amitié entre deux peuples et surtout le Sénégal, c'est une sélection qui n'a jamais remporté cette Coupe d'Afrique des Nations, donc il y aurait quand même une dimension historique. Maintenant, j'ai deux arguments, un sportif. Pour moi, le premier, effectivement, cette équipe d'Algérie fait une très belle compétition. Elle donne le sentiment, je pense à tous les observateurs, et Habib l'a notamment dit, de jouer ensemble, de jouer en équipe, de défendre ensemble, d'attaquer ensemble. On sent une âme, on sent un état d'esprit, on sent un leadership avec un joueur qui s'appelle Riyad Mahrez. On sent qu'ils ont peut-être trouvé l'homme providentiel, souvent on l'attend sur le terrain, mais là, c'est peut-être le coach Djamel Belmadi.
Qui est sur le banc.
Et puis, l'autre argument, ou celui que j'espère au fond de moi, je me dis quelque part, c'est un peu le sens de l'histoire. L'histoire, pas seulement du football, l'histoire de ce pays actuellement, sans vouloir instrumentaliser le football, sans en faire un remède, sans en faire un pansement. On sent qu'il se passe quelque chose de différent en Algérie. On le vit, on l'entend, on suit l'actualité. Et je pense que ça récompenserait quelque part ce peuple fantastique qui, sur les 60 dernières années depuis son indépendance, même si ils ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations en 90, a vécu beaucoup de joie, mais a eu aussi beaucoup de peine, il y a eu beaucoup de souffrance. Et quelque part, je pense que ça pourrait leur faire un bien fou. Voilà.
Freddy Koula, vous qui êtes là en tant que Gabonais et arbitre,
et passionné vous, par le débat aussi.
Qui vous a convaincu?
C'est difficile de pouvoir se choisir parce que évidemment j'ai un cœur qui penche pour
c'est
le Sénégal.
C'est toujours difficile de choisir, Freddy.
Ouais, extrêmement difficile.
Moi,
c'est d'autant
dire,
plus
si demain il y a
non, mais c'est d'autant plus difficile. Non, j'aimerais bien avec le poids de l'histoire, avec surtout le côté émotionnel, parce que moi dans cette CAN là, l'équipe qui m'a donné le plus d'émotions et qui est d'ailleurs du point de vue du football en lui-même a été le plus impressionnant, c'est l'Algérie. Mais de l'autre côté, le Sénégal attend aussi cette CAN depuis tellement d'années. Ça fait le peuple. Moi j'en discute avec quelques-uns de mes cousins au Sénégal qui me disent Freddy, je sais pas comment je me sentir après cette finale-là, je ne sais pas si je vais pouvoir manger encore. Donc il y a une telle attente de ce trophée-là que tu te dis, voilà, ça va jouer. Il y aura forcément un perdant, il y aura forcément des gens qui vont pleurer, mais ce qui est sûr, c'est que le football en sera gagnant parce que ce sont les deux meilleures équipes du tournoi pour l'instant qui sont en finale.
Si vous me permettez 10 secondes, c'est surtout, il y a une histoire pour moi qui est importante, c'est qu'on a Aliou Cissé, Tony Silva, qui est l'entraîneur des gardiens, et Lamine Diatta, qui est le coordinateur de cette équipe aussi.
Cissé qui avait raté le pénalty en 2002.
Trois joueurs qui ont connu la déception comme moi en 2002. Ouais. Et puis la petite histoire, c'est une petite pensée aussi pour Bruno Metsu, Jules Bokandé et Mansour Wade, qui étaient aussi le staff de cette équipe du Sénégal en 2002 en Coupe d'Afrique et en Coupe du Monde. Et donc pour tout ça, on se dit que c'est peut-être le moment et que peut-être que eux, d'où ils sont, vont nous envoyer un petit supplément d'âme pour aller gagner cette compétition.
Bon, ben on verra ça. Il reste encore. je suis la vraie arbitre. En tout cas, les deux équipes se sont souvent retrouvées sur le terrain, Sénégal et Algérie. Ça sera le 23e confrontation. Mais dans les mémoires, et vous y avez fait allusion déjà, messieurs, alors on y revient. Eh bien, il y a cette demi-finale de la CAN, match éliminatoire 1990. وجاني مليحه لي منا مليحه لي منا في الثلاثه دي منا صايب تبقى الكره السنغاليه قد فار شوف الخطا هذا خطا فادح وتسجيل الهدف من سيسي ادم فتحه مليحه من وجاني ما جاء تبقى الخطوه Match éliminatoire, et c'est l'Algérie qui avait gagné. On entend le commentaire en arabe, et alors le but d'égalisation, hein, c'est vraiment, oh là là, on le commente à peine. Bon, ça, on en a l'habitude quand les commentateurs, évidemment, sur une chaîne nationale en plus, s'emballent un petit peu. Vous vous en souvenez de ce match?
Oui, j'étais très jeune.
Il avait séché le cours.
J'avais séché, je sais pas bien, mais je le dis maintenant, je peux le dire. J'avais séché pour la finale, et j'avais séché pour la demi-finale. Bon, c'est pas bien, je le dis, mais bon.
Mais l'Algérie gagnait.
L'Algérie gagnait. Alors, c'était dans le temple du 5 juillet, c'était Algérie-Sénégal. Claude Leroy qui était aux ordres à ce moment-là et vous parliez
sur le banc du Sénégal.
Sur le banc du Sénégal et donc du côté algérien c'était Kier Mali, vous aviez Rabah Madjer, Ahmed Oudjani, Moussa Saïb, voilà une belle équipe. Et pour la petite anecdote, j'espère que ça sera un signe favorable à l'Algérie. La seule fois où l'Algérie a gagné sa Coupe d'Afrique des Nations, en poule, elle avait battu le Nigeria et en finale, elle avait retrouvé le même Nigeria qu'elle avait battu et c'était un Nigeria qui ensuite était devenu extraordinaire avec des Rachidi Yekini et tout.
Alors
je sais pas si ça.
Je vois très bien le parallèle que
si
vous faites. Vous voyez aussi.
Oui, je vois le parallèle.
Alors, le tournant quand même, parce que jusqu'aux années 2000, c'était systématiquement l'Algérie qui prenait le meilleur sur le Sénégal. Et puis le tournant, Habib, c'est en 2000, lorsque le Sénégal va battre l'Algérie. Un score sérieux,
3-0. 3-0.
Je l'ai vu ce match. Il
y avait... one,
non, vous aviez gagné à Dakar 3-0.
Ah oui, 3-0. Oui.
Et moi, je me souviens, il y avait la Didiouf. Il y avait une talonnade et on s'était fait jongler comme jamais. je m'en souviens du match.
Et c'était en vue du Mondial 2002. Donc, exactement. Effectivement, ça annonçait déjà quelque chose. Ça signifiait déjà quelque chose. C'est-à-dire le Sénégal avait passé un cap, finalement, le football sénégalais.
Oui, c'était surtout, on était dans une phase de construction. Moi, j'y étais pas encore. Je suis arrivé en 2001. Mais c'est vrai que ce Sénégal a apporté une génération de grands talents. Moi, je pense à Fadiga, Henri Camara, Eladji Diouf, tous ces joueurs-là qui ensuite ont été présents de 2002 jusqu'à 2006-2008. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut des matchs, on va dire,
déclic,
référence pour construire quelque chose. Alors, ça a été un long processus qui a été commencé par l'entraîneur allemand, qui ensuite a été repris par Bruno Metsu. Et puis, c'est vrai que cette sélection a montré énormément de qualité, mais n'a pas gagné de trophée. Donc, on espère que ça change sur le match de vendredi.
Dernier affrontement en CAN, alors hormis celui de poule il y a quelques jours à peine, eh bien c'était au Gabon à la CAN en 2017, match de poule.
Este es Hani, ocasión para Argelia. Allá va Hani al segundo palo, gol, 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 gol. Es Limani. Vamos a ver, ahí está la jugada otra vez, atención, que lleva mucho más peligro que la anterior, hacia atrás, otra vez Mandy, enchufando y gol, 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 pasa Dios. Dentro del área, qué buen balón de Mané, Slimani, gol, 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 ese balón ha entrado, la pelota ha entrado, va a dar gol el árbitro, gol, gol de Argelia. Tajani en defensa, el remate. Gol de Senegal, un minuto. Les ha durado la alegría. Senegal 2, Argelia 2.
Sí, la empala de forma sensacional y bueno, sí que.
Voilà pour ce qui était donc de cette CAN 2017. Il y en avait eu aussi en 2015. Là, c'est l'Algérie qui avait pris le pas. On se souvient, l'Algérie c'était alors sélectionneur. En 2017, eh bien, c'est la marche quand même du Sénégal qui va ensuite arriver. Lui, l'Algérie est éliminée et c'est le Sénégal qui va
en quart de finale.
Il n'y avait pas de huitième de finale à l'époque.
Exactement. Mais je crois que les dernières statistiques entre le Sénégal et l'Algérie, puisque j'ai fait une petite vidéo hier pour un autre je crois que c'est 3 victoires pour l'Algérie et un nul. Donc le nul dont on a parlé, mais en CAN, je crois que c'est ça.
Mmh.
Et parce que là il y a eu la victoire dont vous avez parlé. Donc
là c'est le match le plus important.
En 2015, vous avez eu ce nul en 2017 et puis vous avez la victoire de l'Algérie là sur le match de poule.
Alors ce qui nous a amusé, ce qu'on se disait, c'est que si ces équipes aussi qui arrivent à un niveau important, tant le Sénégal que l'Algérie, alors là en finale, mais c'est des équipes qui se sont aussi illustrées sur la scène internationale. Pourquoi ? Parce qu'elles ont gagné des matchs symboliques en Coupe du Monde.
Tout à fait.
Alors on repense et bien à 2 matchs, on va vous passer les extraits, on va voir si vous savez répondre.
Et de la technique et des mouvements d'Aleb Assad. Et c'est un bel moment extraordinaire.
Assad, 2002 World Cup. And it's Djorkaeff who gets caught in possession here. And it was Dap who put Elhadj Diouf away. And they've got two striding up in the centre here. Bouba Diop is there. Oh, and Bouba Diop is there. And Senegal have scored the first goal of the 2002 World Cup.
Senegal! Je pense bien que maintenant, les équipes champions du monde ont intérêt à faire attention quand ils rentrent.
Bon, alors vous avez deviné à vive.
Oui, j'ai deviné les deux.
Il a le frisson à vive, ça doit.
Oui, déjà, c'est deux matchs très importants pour le continent africain, au-delà du fait que ça soit pour l'Algérie et pour le Sénégal. Mais on se rappelle justement de l'Algérie avec Belloumi, qui nous avait marqué vraiment dans notre jeunesse. Et puis, c'est sûr que ce match de 2002 face à l'équipe de France, championne du monde, championne d'Europe, de voir Bouba Diop marquer sur un centre de la Djidjouf avec. Un ballon contré, Bouba Diop qui glisse, on avait tout dans notre sens ce jour-là, et c'est vrai que de battre les champions du monde, ça avait été quelque chose d'exceptionnel pour nous.
Vous aviez battu la France, donc championne du monde, en 2002, en ouverture de la Coupe du Monde en Asie. Et puis l'autre match, Nabil, c'était, il y a longtemps, c'était 1982, vous aviez séché aussi là, peut-être ?
Non, là par contre, je m'en souviens pas, et c'est bien dommage, parce que ça a été un des mythes fondateurs.
RFA.
Du football algérien et d'ailleurs
l'Allemagne
sur ce deuxième
n'était pas
but,
encore l'Allemagne, hein.
Ouais, et l'Allemagne était à ce moment-là championne d'Europe et n'avait pas perdu un match depuis 4 ans, donc ça avait été une surprise absolument incroyable. Et sur ce deuxième but qu'on l'entend en commentaire, puisqu'il dit Dahleb, donc l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, extérieur du pied, il lance Assad Salah qui a joué à Mulhouse et au Paris Saint-Germain et qui ensuite centre directement pour Belloumi. Les Algériens ont enchaîné 14 touches de balle sans que les Allemands ne touchent le ballon. Donc voilà, c'était le Barça avant l'heure.
Ce qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, il faut savoir que le football déchaîne les passions et surtout traverse le temps. Pourquoi ? Parce que moi, en 82, je n'ai que 5 ans. Et en fait, pourquoi je me rappelle de ces matchs-là ? C'est parce que mon père avait la cassette de toute la Coupe du Monde enregistrée. Et je me rappelle, il y avait marqué Coupe du Monde 82. Et en fait, je me suis repassé ça en 85, en 86. C'est un petit peu le Roland Garros d'ailleurs de Yannick Noah. Pourquoi je m'en rappelle ? Parce que, en fait, je l'ai regardé quand j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Sinon, à 5 ans, je m'en rappellerai pas. Et c'est vrai que c'est de voir ce but de Belloumi. On se rappelle d'Alain Girès face à l'Allemagne, cette joie. Et 3-3, donc ça nous a marqué, et c'est vrai que ce sont des moments assez incroyables pour le continent africain et même nous dans notre jeunesse.
Ouais. Ça transporte.
Ouais, et c'est vrai que le fait aussi que ces deux équipes aient brillé sur la scène internationale, eh bien, ça fait aussi, ben voilà, que tout le monde va s'intéresser à la finale de la CAN J-2, je vous le rappelle. Allez, fin de sujet et fin d'émission, on va aller du côté du Cameroun. La CAN, c'est aussi la fin de parcours pour de nombreux sélectionneurs qui ont disputé la compétition, comme après chaque Coupe d'Afrique, on a un peu l'habitude. Alors ainsi, on peut citer Sébastien De Sabre, qui n'est plus à la tête des Cranes, mais on croit comprendre que l'Ouganda est arrivé en huitième de finale et que ça a été plutôt d'un commun accord. C'est en tout cas officiel, puisque le Français est depuis l'entraîneur du club égyptien Pyramide. On a eu aussi Javier Aguirre, alors balayé par une fédération qui s'est autodissoute, ça c'était l'Égypte. Il y a eu Emmanuel Amunike, dont on parlait tout à l'heure, sélectionneur de la Tanzanie, le Nigérian, et qui a aussi été remercié, ainsi que Paul Put avec la Guinée. Hier, c'est la FECA Foot qui a décidé de mettre fin aux fonctions de Clarence Seedorf et de son adjoint Patrick Kluivert, arrivé pourtant il y a pas si longtemps, en août 2018, mais la défaite en huitième de finale face au Nigeria a été finalement le coup d'arrêt. Écoutons les propos du ministre des Sports du Cameroun, Narcisse Moël Combi, c'était sur la chaîne CRTV avant-hier soir, et on comprend que déjà lui met fin aux fonctions du sélectionneur.
L'incapacité de l'entraîneur-sélectionneur à mettre sur pied une équipe conquérante et cohérente. Ainsi, en 4 matchs, on a dû constater qu'il a aligné 4 équipes différentes, des équipes très variables. On note aussi sa difficulté à maîtriser l'ensemble du groupe et à y faire régner l'ordre et la discipline. Le manque de motivation des joueurs et quelques influences externes dissonantes, nuisibles à la cohésion et à l'harmonie au sein du groupe, ont également été relevés par certains analystes.
Bon, alors le bilan du ministre dure 5 à 6 minutes, c'est un extrait, mais en tout cas on lui reproche beaucoup de choses à Clarence Seedorf. Et on va aller du côté du Cameroun. Bonjour Jean-Bruno Tagne.
Bonjour Ami, bonjour à tous.
Jean-Bruno, dites-nous, le duo de grands joueurs néerlandais a peut-être été étonné par la rapidité de la décision, mais j'imagine que ni les Camerounais ni vous n'ont été surpris de cette décision de renvoyer Clarence Seedorf et Patrick Kluivert?
Oui, personne. On a très peu été surpris par ce limogeage express de Clarence Seedorf et de son adjoint. Vous avez diffusé cette interview du ministre des Sports lundi soir, qui a un tout petit peu donné le ton, qui montrait très bien qu'il serait viré. Mais avant ça, il y a eu un événement, c'est un audio qui a circulé dans les réseaux sociaux et est devenu viral. C'est d'un joueur qui n'est pas allé à la Coupe du Monde et qui balançait un peu, qui montre en gros que Clarence Seedorf manquait de personnalité, qu'il n'était pas maître de ses choix au sein de cette équipe nationale. Donc c'est cette interview, c'est cet extrait audio diffusé dans les réseaux sociaux qui a mis un peu le feu aux poudres, a suscité de nombreux commentaires et montrait très bien que le sélectionneur ne serait pas gardé. Et surtout que, souvenez-vous, son prédécesseur Hugo Broos a quand même remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec une équipe de bras cassés, mais a été viré, donc il ne pouvait en être autrement pour Seedorf.
Voilà. Oui, bon, bras cassés.
C'est un peu dur pour
oui. Oui, des bras cassés qui ont gagné la CAN quand même.
Aboubakar, Mokonjo,
Nkoulou, ça va. C'est
non, c'est surtout, il n'y espérait pas.
C'est une performance extraordinaire et malgré ça, on l'a viré, dont il ne pouvait pas en être autrement pour Seedorf, qui malheureusement n'est pas allé plus loin que les huitièmes de finale.
Mais Jean-Bruno, une autre question simplement, parce qu'effectivement le bilan n'est pas énorme, mais il n'était pas là depuis très longtemps cette équipe, il n'a pas eu beaucoup de temps pour la prendre en main. Est-ce qu'on remarque depuis 2009, c'est le nombre de sélectionneurs, il y en a eu 9 en à peine 10 ans, est-ce que c'est comme ça qu'on travaille au Cameroun, c'est-à-dire on ne donne pas le temps?
Ben, écoutez, je pense que sur ce coup-là, le Cameroun est resté fidèle à lui-même. C'est-à-dire que la moyenne des entraîneurs sur le banc de touche des Lions Indomptables, c'est un an et puis s'en va. Donc, en général, c'est comme ça. Et nous avons très souvent, on en a parlé dans cette émission, Annie, parce qu'effectivement, cette instabilité chronique sur le banc de touche des Lions Indomptables n'est pas de nature à pouvoir construire une équipe sur la durée qui soit efficace. À chaque faux pas, on remet en question tout le staff technique, on recommence. Un nouvel entraîneur sera probablement recruté dans les prochains jours. S'il fait un faux pas à la Coupe d'Afrique des Nations de 2021, il sera
viré,
un autre sera repris, ainsi de suite. Voilà, donc c'est un peu classique au Cameroun. On remet en question tout ce qui a été fait à chaque faux pas. Mais en ce qui concerne le cas de Seedorf, c'est allé très vite parce qu'il y a une trop grande dépendance de cet entraîneur qui a été observé. Il n'a pas pu montrer sa capacité à se détacher des lobbies qui l'ont amené à la tête de cette équipe nationale et c'est cela qui a été dénoncé. Je ne suis pas sûr qu'on ait eu le temps d'apprécier les qualités techniques et ses capacités d'entraîneur même de Clarence Seedorf parce qu'il n'a même pas un an sur le banc de touche des Lions Indomptables, mais c'était déjà très très mal embarqué parce qu'on a eu le retour au sein de cette équipe nationale des clans, des lobbies, ce qui est quelque chose de profondément terrible pour cette équipe nationale. Souvenez-vous, en 2017, quand on remporte cette Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe n'est pas flamboyante, mais a une qualité, c'est la cohésion. Les joueurs s'entendent entre eux, ils jouent. C'est vraiment une équipe. On a une équipe, même si au ouais. niveau des individualités, il n'y avait pas grand monde là-dedans.
Oui, effectivement. Habib, on voit l'exemple d'Aliou Cissé qui est là depuis 4 ans.
C'est ce que j'allais vous dire, en fait, Annie. L'exemple à suivre, c'est celui de la Fédération sénégalaise qui a toujours confirmé Aliou Cissé. J'entends lobby, je sais qui on cible dans le fait d'avoir ramené Clarence Seedorf et d'être un petit peu celui qui chapeaute le grand ordonnateur.
Pourquoi on a peur de dire Samuel Eto'o?
Non, mais moi je ne sais pas si c'est le cas parce que franchement je connais Samuel et c'est quelqu'un qui veut du bien à son pays. Après, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, mais ce que je veux dire c'est que chez nous on a aussi Eladji Diouf qui a une voix importante au Sénégal, qui s'est parfois opposé à Aliou Cissé et on se rend compte que la fédération a été solide, ne s'est pas laissé embarquer parfois par l'opinion publique, pas par les gens qui ont critiqué Aliou. Aliou a fait du bon travail, il a construit cette équipe, il a vécu des échecs importants, la CAN 2017, la Coupe du Monde puisqu'il avait gagné son premier match. Malgré tout, il est là et aujourd'hui, il est en passe d'amener le Sénégal peut-être au trophée final. Il lui reste une étape. Maintenant, encore une fois, c'est ce que doit suivre toutes les fédérations africaines, donner du temps aux gens et surtout interroger les sélectionneurs lorsqu'on va les chercher sur leur projet de jeu, sur leur ambition, ce qu'ils veulent faire au sein de cette sélection.
Ce qu'ils savent.
Parce qu'à un moment donné, j'entends des gens qui font des constats en disant « Oui, mais il a pas été capable de trouver une équipe. » Ok, est-ce que tu l'as interrogé sur ce qu'il voulait faire, ce qu'il voulait mettre en place, ce qu'il voulait en développer
son projet,
au sein du football camerounais, local, africain, tunisien, malien? Moi, à un moment donné, c'est aussi ça, c'est là où on doit grandir en Afrique, de dire, on interroge les sélectionneurs, qu'est-ce que tu veux développer, combien on te donne de temps pour développer ça, et on regarde qu'avec l'Algérie, eh ben Jamel Belbadi, on lui a peut-être donné du temps, on lui a donné de la confiance, il a aujourd'hui peut-être les mains libres pour développer quelque chose, et mine de rien, c'est la même chose pour Aliou Cissé, on a deux équipes qui se retrouvent en finale.
Vous serez pas candidat au Cameroun, là?
Non, je suis pas candidat au Cameroun. Non.
Jean-Bruno, on reviendra vers vous prochainement, mais on vous donnera pas la Bib Bey, hein, on le garde avec nous. Jean-Bruno, on reviendra vers vous parce que, eh bien, la CAN, la prochaine CAN aura lieu dans votre pays, théoriquement, et donc, eh bien, on s'intéresse sera évidemment à qui succédera à Clarence Seedorf. En tout cas, on a l'impression comme ça à distance d'un beau gâchis. Merci beaucoup Jean-Bruno Tain d'avoir été fidèle à Radio Foot. Merci beaucoup. Oui, hein, tous ces sélectionneurs, bon, on y viendra sur après, quand la CAN sera finie, peut-être au mois d'août, et on verra combien auront duré.
5 secondes, juste pour dire que ce qui est amusant, c'est qu'on n'ait pas entendu M. Seydou, le président de la fédération, à contrario de ce qui s'est passé en Guinée
au Caire.
Avec
M.
Soaré.
C'est lui qui a signé la lettre, hein, quand même. Mais le contrat avait été fait aussi par le ministre des Sports.
Parce que c'est le ministère qui paye.
C'est la fin de ce Radio Foot International. On se retrouve tout à l'heure en sortie du match pour la troisième place. Donc à 23h10, heure de Paris. À tout à l'heure et merci à tous.